France Musique.
Les deux font la paire. Voilà 20 ans que Jean-Guillaume Queyras et Alexandre Tarot jouent ensemble, complices. C'est donc le titre assez logique du nouveau disque du violoncelliste et du pianiste. C'est le violoncelliste qui est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Guillaume Queyras.
Bonjour.
Comment on trouve son partenaire en musique de chambre?
Un peu comme dans la vie finalement, c'est-à-dire que ce sont les rencontres, c'est la magie des rencontres. Et la rencontre avec Alexandre s'est faite d'abord pas musicalement, on s'est rencontrés par hasard sur le trottoir à la sortie d'un spectacle de théâtre qu'on était allés voir tous les deux.
Donc pas de musique.
C'était Knock avec Serrault, je me souviens, Michel Serrault. C'était un spectacle assez magnifique. Et à la sortie, on se rencontre. Et bien sûr, j'avais entendu des disques d'Alexandre. Et on était encore bien jeunes. Donc, c'était il y a bien longtemps. Et puis, voilà. Et puis ensuite, on s'est dit, ce serait bien un jour de... Et puis un jour, ça s'est fait. Et puis, ce premier concert a été vraiment très... un grand plaisir. Et puis voilà, de fil en aiguille, les choses ont pris leur cours. On s'est retrouvés chez le même agent, donc ça en plus ça a aidé. Et puis maintenant, on est comme deux frères, c'est vrai. Je dirais que c'est Alexandre est une des personnes qui me connaît le mieux et réciproquement.
Parfois, on se fâche, on s'engueule artistiquement, on n'est pas d'accord. Comment on tranche quand on est deux?
Alors... j'aimerais quelque part, je suis embêté parce que j'aimerais pouvoir dire, parler des aspérités, parler des problèmes, etc. Franchement, je me souviens pas de. Alors, on discute, mais je me souviens pas de désaccords profonds, ni musicaux, ni personnels. C'est-à-dire qu'on on est vraiment là.
Je parlais d'artistique, le personnel ne nous regarde pas.
Ben non, parce qu'après, c'est vrai, quand on est en tournée, on est en tournée pas ensemble. Ben en fait, presque forcément, parce que quand on est dans la musique et qu'on discute de musique et qu'on propose une idée, par exemple, un rubato, je ne sais pas, comme on fait un métier passion, donc on parle de quelque chose qui nous est très cher. Donc si l'autre vous dit, oh non, là, ton idée, ça vaut rien, on se sent personnellement atteint. C'est quelque chose, donc c'est pour ça que il y a souvent les groupes de musique de chambre ont du mal à tenir, etc. Mais, je sais pas, avec Alexandre, il y a une espèce
d'osmose.
D'osmose et de souplesse en même temps, de notre part à tous les deux. Je crois que moi j'adore, être comme une éponge, c'est-à-dire vraiment prendre les idées des autres et me laisser influencer. J'aime me laisser influencer dans la mesure où je vais vers des personnalités que j'admire profondément. Et c'est toujours ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait quand j'ai travaillé avec Boulez régulièrement, quand j'ai rencontré Tabeat Zimmerman, Isabelle Faust, etc. Tous mes partenaires comme ça dans la vie musicale, je vais vers eux avec admiration, avec confiance. Et du coup, je suis demandeur, j'aime être influencé.
Jean-Guillaume Queyras, quand vous jouez par exemple avec Alexandre Tarot, puisque on va vous entendre plusieurs fois jusqu'à 9h tous les deux sur ce nouveau disque Complice, quand vous travaillez, vous parlez beaucoup, vous jouez beaucoup, il y a des musiciens qui sont assez bavards et d'autres qui ne s'expriment que par la musique.
On parle peu on n'a pas de discussion sur ce qu'on est en train de jouer, assez peu. Alors, c'est aussi dû justement à cette complicité de nombreuses années. Donc, on n'a pas besoin de parler beaucoup, d'autant plus que je crois que Alexandre comme moi, on est extrêmement sensoriel. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand je propose quelque chose au niveau du son, du rubato, du timing, du vibrato, etc., mais Alexandre, c'est comme si, c'est même pas qu'il réagit, il anticipe. C'est quelqu'un. J'ai rarement vu quelqu'un qui a une telle empathie musicale. C'est-à-dire que sur le moment, c'est pour ça que c'est un accompagnateur, et j'utilise à dessein un mot qui pourrait paraître être une insulte pour un immense musicien qui est comme il est, mais en fait c'est lui-même qui adore ça. Il adore être accompagnateur, et notamment dans ce répertoire à la Confesse, il y a beaucoup de pièces qui sont en fait vraiment des pièces de virtuosité ou autre chose comme ça qui accompagnent. Et Alexandre est un accompagnateur hors pair, d'abord parce qu'il adore ça, mais aussi parce que il est justement, il a une telle empathie et il anticipe chaque chose que vous allez faire. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de discussion interminable.
Tchaïkovski, valse sentimentale, Jean-Guy Enqueras au violoncelle, Alexandre Tarot au piano, cet extrait de ce nouveau disque Complice qui paraît chez Harmonia Mundi. Jean-Guy Enqueras, vous êtes sentimentaux tous les deux, vous et Alexandre Tarot, qui est le plus sentimental?
Je crois qu'on est, tous les deux des grands sensibles, ça je crois. Je crois que de toute façon... quelqu'un qui se tourne vers la musique classique pour en faire sa vie pour s'y exprimer, c'est pourquoi on fait de la musique, c'est parce que ça nous permet d'exprimer des choses qu'on peut pas sinon dire par les mots, qu'on peut pas, donc forcément si on n'est pas un peu à fleur de peau, je pense que moi ce serait pas possible.
Dans ces pièces, on va parler de l'histoire et de l'esprit de ce disque, mais précisément dans cette valse sentimentale, il y a des écueils à éviter. Il faut être sentimental sans être sentimentaliste. On peut vite dégouliner.
Je crois qu'il faut vraiment, là pour le coup, surtout ce genre de répertoire, parler avec le cœur. Ce que je veux dire, c'est que ça va dégouliner si vous essayez de faire des effets de sentimentalisme. Donc, je crois que si vous êtes profondément, simplement, vous écoutez ces harmonies, cette ritournelle, hein, cette chose qui revient, et vous la laissez exprimer des choses que vous avez ressenties, etc. Je pense qu'il y a, à ce moment-là, il n'y a pas de risque. Le mauvais goût, je crois que ça vient quand on essaye de faire des effets, quand on n'est pas sincère, quand on essaye de coller des affects, en fait.
Ça peut être bien le mauvais goût. Hein.
Ah, après, de temps en temps, on peut avoir envie de... Non, mais
on peut vouloir beaucoup de sucre et dégouliner.
Et puis c'est très... Ah, mais moi j'adore le sucre. J'adore le sucre. Non, c'est pas... Justement, c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, c'est pas une question de bienséance. Donc, plutôt que de me dire, ah, faut que je fasse attention de ne pas faire du mauvais goût, je crois que c'est simplement qu'est-ce que cette musique me qu'est-ce qu'elle évoque, éventuellement aller voir que Tchaïkovski, quel genre de personnage il était, qu'est-ce qu'il voulait, aussi s'intéresser aussi à ça, et puis ensuite entrer en contact avec ça et être sincère.
Ce disque Complice, comment est-il né, quel est l'esprit, le fil, 18 pièces?
Alors, il est né de
19 même.
Voilà, oui. Donc ce sont effectivement des petites pièces. C'est un disque de bis. Voilà. Donc c'est un disque de et le bis c'est quoi? C'est le moment dans le concert où après une grande œuvre de Brahms, Debussy, je ne sais, on avec le public, on dit bon maintenant on sort du programme établi, on est ensemble, improvisons. Et donc que ce soit quand j'ai un récital solo ou quand je suis en duo avec Alexandre, on a un florilège de petites pièces comme ça qui nous tiennent à cœur, avec les qui ont et qui justement par leur petite forme vont cibler, j'ai envie de dire, un certain sentiment. Donc ça peut être l'exubérance et la joie avec la pièce de Haydn Piatigorsky avec laquelle on ouvre l'album, avec la pièce qu'on vient d'entendre, c'est la nostalgie, la mélancolie, etc. Et en fonction du moment, en fonction de ce qu'on sent dans le rapport au public, l'ambiance du moment, on va décider vers où on va aller. Et c'est ce côté improvisé comme ça, c'est ce côté presque un jeu avec le public qui donne une spontanéité. Et c'est cette spontanéité qu'on a essayé de retrouver dans ce florilège de pièces qui sont effectivement extrêmement variées.
Hasard de la programmation, à votre place, hier matin, il y avait la violoniste Marina Schisch qui sort un disque dans le même esprit qui s'appelle Postscriptum, également des bis, hommage à Jascha Heifetz, à Fritz Kreisler. Elle parlait ici même du concert et donc de ces bis, le moment où on se relâche un peu, le concert est passé et comme si l'artiste pouvait s'exprimer sans une certaine pression. Il y a aussi cette dimension-là pour vous deux quand c'est le moment du bis. Et j'ai aussi cette question, parfois on décide le bis au dernier moment ou c'est toujours préparé?
Non, la spontanéité joue un grand rôle et elle doit jouer un grand rôle. En fait, quelque part, le bis, c'est la quintessence de quand même de quelque chose qu'on recherche toujours dans notre vie de musicien. Encore une fois, pourquoi on se tourne vers les arts? Pourquoi on se tourne vers la musique? C'est aussi pour sortir de notre condition humaine quotidienne, j'ai envie de dire. On veut s'élever, on veut s'envoler. On veut être libre, on veut être. C'est pour ça aussi qu'on fait de la musique. Et c'est vrai que le moment du bis, c'est ça aussi. Et donc la spontanéité, je pense, est vraiment bienvenue.
Complice, parfois, vous êtes tout seul aussi. Voici Bernd Alois Zimmermann. La quatrième des cordes studieuses de Zimmermann, étude courte. Là, c'est vous seul. C'est une petite incursion dans le programme Complice avec Alexandre Tarot. Il y a également sur ce disque Dutilleux. Quand vous donnez des récitals pour violoncelle seul, ça arrive souvent, mais c'est plus rare. Quel est le rapport avec le public, Jean-Guillaume Queyras?
Dans le récital solo en général, c'est vrai que le récital solo est un moment particulier. C'est vrai que c'est moins dans notre nature en tant que violoncelliste que par exemple les pianistes, hein, dont c'est le centre de leur activité. Mais c'est quelque chose de très privilégié, que j'aime beaucoup faire, parce que on a vraiment un rapport intime presque et personnelle avec avec le public, et du coup on peut gérer les tensions, le temps, etc. d'une manière extrêmement souple dans l'interprétation des grandes œuvres et effectivement dans l'interprétation de des œuvres solo. Mais je dois dire que une petite pièce comme celle qu'on vient d'entendre de Zimmermann ou alors ou du Tilleux, effectivement, il m'arrive aussi très souvent de jouer en bis après un concerto et après un concerto classique.
Oui, bien sûr.
Parce que on parlait tout à l'heure de du moment de liberté et d'envol du bis, et pour moi ces deux pièces de manière assez différente proposent quelque chose. Tout d'un coup, hop, on entre dans un univers qui est totalement qui est lointain, qui nous voilà, on voyage. Donc après un concerto de Dvorak, de partir vers les constellations en apesanteur d'un du Tilleux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et je suis très heureux parce que très souvent après le concert, les gens viennent me parler autant de du Tilleux que de Dvorak.
Ils vous disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a entendu?
Oui, c'est ça. Oui, ils sont très curieux de ce qu'ils ont entendu, et ils trouvent comme moi que c'est un moment de poésie vraiment exceptionnel.
Alors que les programmateurs, eux, préfèrent peut-être que vous jouiez Saint-Saëns ou Dvorak ou Haydn, et c'est aussi une liberté à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément joué tout un monde lointain avec orchestre, mais vous allez jouer une pièce du répertoire classique, et ensuite vous avez le droit, vous arrogez le droit, puisque le bis, vous faites ce que vous voulez, de jouer l'une des strophes sur le nom de Zahar de du Tilleux.
Oui, mais je crois que c'est même plus... Franchement, c'est... Je dis c'est même plus, parce que peut-être ça l'a été à une époque, ça l'aurait été à une époque. Mais c'est tellement naturel pour moi, je le sens même plus comme une transgression, de passer justement, de jouer en bis du Tilleux plutôt qu'une sarabande de Bach, qui est magnifique aussi, et possible aussi. Mais, et je dois dire, je n'ai jamais eu, peut-être une fois j'ai eu une réflexion d'un organisateur après un concerto d'Elgar, je dirais pas où j'avais joué effectivement du Tilleux en bis. Et il m'avait dit, mais tu sais, c'est notre série grand classique quand même. Voilà. Mais c'est vraiment une fois en 20 ans. Et sinon, je n'ai jamais eu de réflexion négative, ni du chef d'orchestre, ni des musiciens de l'orchestre, ni de l'organisateur. Parce que, encore une fois, je crois que... On y revient, le bis, on a envie justement aussi d'être surpris, on a envie de partir là où on s'y attend pas, et c'est un peu ce que permet ce voyage dans le temps.
Ça arrive qu'il n'y ait pas de bis, qu'il n'y ait pas assez d'applaudissements d'un public pour...
Oh, bien sûr.
Bien ça sûr. Varie d'un pays à l'autre, d'un public à l'autre. On sait notamment que pour d'autres registres de concerts, notamment le public américain, nord-américain, tout est très cadré, il y a moins ces rappels qui durent des heures. Parfois, ça vous arrive, vous, d'être un peu surpris par la réaction du public?
Oui, oui, c'est les applaudissements, c'est toute une, c'est une culture, et j'espère que ça va le rester, parce que c'est quelque chose de très touchant. Par exemple, en Hongrie, ce que j'adore, c'est le, ils ont un vrai travail rythmique sur l'applaudissement que je trouve extraordinaire. Ils font un espèce d'accélérando perpétuel, vous savez, comme les escaliers en illusion d'optique, vous savez, qui sont, et donc ils arrivent comme ça à faire ça, mais totalement synchronisé. Récemment, j'étais au Danemark justement avec l'orchestre national danois, et là j'ai été surpris c'était, vous savez, quand on tape dans les mains en rythme comme ça, mais alors c'était immédiat. Le rythme, c'est-à-dire qu'en France, bon, ils font un petit peu de temps pour que le public se trouve.
Quelques secondes où ça s'ajuste.
Ouais, ça s'ajuste, etc. Et puis parfois, c'est pas tout de suite, ça peut être après le premier bis, etc. Bon. Et là, demain, c'était immédiat, rythmique, rapide, extrêmement rapide. Et toute une salle de 2000 personnes, quelqu'un qui dit tac, 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 comme ça, synchronisé impeccablement. Donc ça, c'était nouveau pour moi aussi. Et effectivement, vous parlez des États-Unis. J'avais une tournée en trio, là, il y a 3 semaines avec mes amis Isabelle Faust et Alexandre Melnikov, là-bas aux États-Unis, et on était presque surpris, même si bon, c'est pas la première fois qu'on y va, mais c'est par des applaudissements enthousiastes, standing ovation, bravo, etc. Mais un rappel et tchouk, et tout le monde rentre à la maison. C'était vraiment tac tac, tout se faisait comme ça. Donc le temps, c'est de l'argent.
De la sociologie géopolitique de l'applaudissement d'un pays à l'autre et des bis. Peut-être qu'en Hongrie, vous jouez en bis des danses hongroises. Brahms, la deuxième danse hongroise. Jean-Guyen Queyras, notre invité ce matin au violoncelle avec Alexandre Tarot. Le disque s'appelle Complice. Il sort chez Harmonia Mundi. Quelques dates de concert pour aller voir Jean-Guyen Queyras. Vous serez au théâtre des Champs-Élysées le 2 avril avec l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Douglas Boyle. Là, ce sera dans 500, hein, c'est ça?
Alors, semble-t-il. C'est non un programme assez iconoclaste, presque, j'ai envie de dire. 500, c'est Boulez. Il y aura
musique française.
Oui, c'est vrai, certes. Mais on peut pas faire plus contrasté. Le deuxième concerto de 500, ça, je tiens à le préciser parce que, on a voulu proposer ce concerto qui n'est presque jamais joué. Tout le monde connaît la ritournelle le thème du premier concerto et peut le chanter sous la douche. Le deuxième concerto est presque jamais joué. Il est difficile, il est exigeant, mais vraiment, il gagne à être connu. Et puis, Messages esquisses de Boulez, qui est une petite perle de 8 minutes, un petit chef-d'œuvre pour cette violoncelle que j'aime beaucoup jouer.
Rendez-vous le 2 avril au Théâtre des Champs-Élysées à Paris avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Je signale également que vous serez le 28 avril à la Philharmonie de Paris, notamment avec votre amie Isabelle Faust au violon. Il y aura également Antoine Tavestit et d'autres musiciens. Mais je voudrais qu'on finisse avec autre chose. Comme Alexandre Tarot, vous aimez prendre des chemins de traverse. Lui, par exemple, tout ce qu'il a fait autour de Barbara. Vous jouez Jean-Sébastien Bach, les suites, mais c'est de la danse. Ce sera notamment à Limoges le 22 mars avec Anne-Thérèse de Kersmacher, la grande chorégraphe belge. Comment est né ce projet et quel plaisir vous y prenez?
C'est un projet extraordinaire pour moi, vraiment très 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 riche, très particulier en effet. Et c'est né de mon désir de travailler avec Anne-Thérèse de Kersmacher. C'était vraiment, je voulais faire quelque chose avec la danse, mais il y avait très peu de chorégraphes avec qui je me sentais à même de pouvoir travailler. Donc je suis allé la voir et j'ai exprimé mon désir de... Je suis allé, voilà, sous son balcon avec mon violoncelle pour chanter.
Ouais.
non, c'est pas au sens propre. Mais je suis allé vraiment...
Je suis très naïf, vous savez.
J'ai trouvé le contact et puis et voilà. Et donc on a commencé à discuter et elle a été partante. Et c'est un projet qui m'a beaucoup nourri ces dernières deux années, qu'on a fait beaucoup, qu'on a tourné vraiment, je sais pas, on l'a fait, je crois, 70 fois maintenant. Et je trouve qu'Anne-Thérèse de Kersmacher a cette capacité à vraiment aller à la racine d'une œuvre, de son langage, de sa structure, de son âme même, et ensuite d'y mettre son langage, et du coup il y a vraiment un rapport tellement fort entre ce qu'elle crée visuellement dans l'espace, etc., et même au niveau de l'éclairage, choses comme ça, et la musique, et ça crée vraiment un tout.
Ça a changé, ça a influencé votre jeu de Jean-Sébastien Bach?
Oui.
Comment?
Oui. Le fait que cette pièce est devenue vraiment une pièce pour moi de musique de chambre. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai sur scène
Complice.
Que, voilà, c'est ça. Il y a un rapport avec les danseurs dans les timings. Je leur suggère des choses, ils me renvoient la balle, etc. Et je les vois dans certains mouvements, ils marchent au rythme de la ligne de basse. Et donc, inévitablement, vous jouez comme un musicien qui est là pour faire danser quelqu'un, pour faire marcher quelqu'un. Et ça a une influence. Et du coup, demain soir, à Freiburg, en Allemagne, je vais
chez
jouer.
Chez vous?
Oui, c'est vrai. Je vais jouer chez moi.
À domicile.
À domicile, c'est ça. Je vais jouer le cycle des suites de Bach, mais seul. Et je sais que cette interprétation va être influencée par le fait que la semaine dernière, ou il y a 10 jours, on était à New York avec Anne-Thérèse de Kersmacher, on a fait ce spectacle 3 fois, et je sais que maintenant, même quand je suis seul sur scène, je suis habité par ce que j'ai vécu avec les danseurs.
À découvrir à l'Opéra de Limoges le 29 mars, et c'est également en DVD. Thank you. C'est également sur le nouveau disque de Jean-Guy Enqueras et Alexandre Tarot, cette valse triste de Franz von Vexei. Merci beaucoup d'être venu sur France Musique ce matin, Jean-Guy Enqueras.
Merci à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.